Au bout de l'actu. Avec Alex Cam et Cyril Michard.
Mais surtout ce soir en compagnie de notre invité Jean-Marie Bénard, qui est le président du conseil départemental des Hautes-Alpes et président de la communauté de communes du Buëch d'Évoluy. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être à nos côtés ce soir. Alors, pour commencer, on s'est dit qu'on pourrait faire un petit exercice rapide. Hein. Dites-nous simplement si vous êtes d'accord avec ces affirmations.
Est-ce que vous êtes d'accord avec une justice rapide et ferme est une nécessité absolue que vous réclamez? L'impunité zéro doit être la règle. Oui ou non, vous êtes d'accord?
Oui.
Vous savez ma conviction, le chemin de la reconquête sera difficile, miné par le doute de nos concitoyens.
Oui.
Nous devons entendre les Français, nous devons entendre leurs demandes d'honnêteté, de courage et de vérité.
Oui.
De nous, les Français attendent transparence et intégrité pour rétablir ordre et confiance. L'exemple doit venir d'en haut.
Oui.
Pas d'autorité de l'État sans honnêteté, le pouvoir doit être exemplaire pour être vraiment légitime.
Oui.
Est-ce que ça vous surprend si je vous dis que ce sont des tweets de François Fillon qui datent pour certains d'il y a quelques jours avant l'affaire Penelope Gate?
Oui.
Bon, on va essayer d'aller un peu au-delà du jeu du ni oui ni non. Quoi qu'il en soit, on se demande à travers évidemment ces tweets si vous vous sentez trompé par une partie de votre droite, puisqu'on rappelle que vous êtes républicain, que vous n'avez pas été filloniste de la première heure, que vous aviez soutenu lors de la primaire Bruno Le Maire, mais aujourd'hui vous vous êtes rangé comme tous derrière François Fillon. Vous sentez trompé à cette heure?
Je pensais que le résultat de la primaire à droite et du centre nous avait mis, j'allais dire, entre les mains des Français, un bon candidat. Un bon candidat qui avait un bon programme et derrière lequel tout le monde s'était raccroché et puis avait envie de faire une campagne présidentielle de grande allure, de belle allure. Bon, après, avec ces affaires-là, d'abord, on est surpris. On est surpris par l'ampleur des sommes qui sont annoncées, qui sont engagées. Et aujourd'hui, on a un mal fou. Enfin, je ne peux pas cautionner ce genre de situation, dans la mesure où, même dans les Hautes-Alpes, des salaires de ce niveau-là, c'est quelque chose qui n'existe pas. Je parle pas de l'emploi réel ou pas réel, mais même ce niveau de salaire, ça va créer des émules. Je pense demain il va y avoir des candidats pour être attachés parlementaires.
Ça veut dire
mais
que
aujourd'hui on ne peut pas cautionner cette situation.
Oui, ça veut dire qu'à cette heure, pour vous, quel que soit le résultat et l'issue du jugement qui sera donné dans les jours à venir, il y a une question de moralité sur laquelle François Fillon ne se relèvera pas. C'est-à-dire que même s'il est blanchi par la justice, moralement, on ne peut pas accepter des salaires tels que ceux qui ont été mis en avant.
Je ne pense pas. Alors, moi, je suis toujours derrière François Fillon parce qu'aujourd'hui, c'est notre candidat. Jusqu'à nouvel ordre, il y a une affaire qui a éclaté depuis quelques jours. Il faudra qu'on ait la vérité sur cette affaire. De toute façon, l'image de notre candidat aujourd'hui est un peu ternie. Peut-être le sera-t-elle encore plus dans les jours qui viennent. On ne peut pas demain faire une campagne présidentielle.
Mais moralement, il s'en relèvera pas. C'est ça que vous dites.
Mais moralement, il aura du mal à s'en relever.
Oui, moralement, il n'arrivera pas à s'en relever. Est-ce que la droite parviendra à s'en relever? Vous l'avez dit, je suis derrière lui, mais jusqu'à quand vous êtes derrière lui? Vous fixez quelle limite?
Ben, je veux dire, on parle de 15 jours pour avoir un résultat un peu probant de une analyse de la situation un peu peut-être pas définitive, mais un peu éclairée, un peu plus qu'aujourd'hui. Bon, et derrière, ben, il faudra que les Républicains tirent la leçon. Et c'est pas les Républicains, c'est d'abord François Fillon qui doit d'abord tirer une leçon pour dire, mes amis de la droite et du centre, bon, avec ce qui est arrivé, il faudra que ça se passe comme ça. Je ne peux plus être votre candidat, votre chef de file. Il faudra que ça démarre comme ça. Si on veut demain faire une campagne présidentielle, et non pas à continuer à faire une campagne un peu judiciaire.
Oui, mais du coup, c'est même les primaires qui tombent à l'eau, puisqu'on le sait, les parrainages, c'est jusqu'à la mi-mars. Tant qu'il n'y a pas une décision, elle reste le candidat. Puis ensuite, ce sera aux Républicains de décider. Finalement, on a donné la parole aux électeurs pour rien. Un coup pour rien, un coup d'épée dans l'eau.
Ça fait une primaire qui ne sert plus à rien. Ça avait permis de dégager des idées, ça avait permis de dégager des courants, ça avait permis de dégager, à l'issue du second tour, un candidat qui s'était affirmé au fil de la campagne des primaires. Et aujourd'hui, tout ça, il y a du travail qui ne sert plus à rien.
Et quel candidat de secours? Difficile de répondre.
On le disait tout à l'heure, le premier qui sortira du bois en solitaire risque d'être mal reçu par ses camarades politiques. Est-ce qu'il faut que ce soit un consortium interne aux Républicains qui désigne quelqu'un, sachant qu'on a compris qu'Alain Juppé, ça fait deux fois qu'il dit qu'il ne sera pas le plan B. Nicolas Sarkozy, s'il ne l'a pas annoncé publiquement, il l'a dit à ses proches, il n'ira pas non plus.
Oui.
C'est très compliqué en termes de...
Il faudra peut-être quelqu'un qui s'appelle, dont le nom commence par un B, pas Bernard, mais peut-être un autre.
Ouais, ça veut dire que Bruno Le Maire, et c'est à lui que vous pensez, qui a signé une tribune aujourd'hui dans le Figaro pour soutenir François Fillon, c'est qu'un jeu de dupes qui consiste à dire « je te soutiens aujourd'hui ».
Je ne sais pas, non, ouais. je ne sais pas, mais aujourd'hui, comprenez que c'est difficile pour des gens qui sont dans notre famille politique de dire « ça y est, moi je suis déjà le bon cheval pour prendre la place de François Fillon ». Aujourd'hui, il faut laisser un peu du temps au temps, mais il faut garder de toute façon les yeux grands ouverts pour que demain on puisse continuer dans cette campagne présidentielle.
En termes de remplacement, on pourrait parler aussi des législatives qui nous rapprochent évidemment de nos territoires. Que dites-vous à Chantal Ameyoud qui fait toujours planer le doute sur son éventuelle candidature sur la deuxième circonscription, en lieu et place de votre conseiller départemental sur Briançon et président Les Républicains, Arnaud Murgia? On rappelle qu'ils sont face aujourd'hui à un sortant qui s'appelle Joël Giraud pour situer sur le territoire.
Alors, on a une telle ambiguïté sur la présidentielle que aujourd'hui, parler des investitures et des législatives, c'est encore un peu tôt. En fait,
parce que ça remet à zéro les compteurs, selon vous?
Probablement.
Ah oui?
Probablement. Enfin, j'imagine que on a vu comment c'était. Les investitures qui avaient été données avant les primaires ont été partiellement modifiées au cours des primaires. Bon, maintenant, si ces primaires-là n'ont servi à rien, il est probable que les cartes vont être rebattues, y compris sur les investitures législatives dans notre département.
Y compris pour Catherine Assaut, qui a remplacé Corinne Jeanfray?
Moi, je me pose des questions. C'est déjà arrivé une fois. Pourquoi ça ne va pas arriver une deuxième fois?
Alors, posons la question autrement. Quel candidat est idéal dans les deux circonscriptions, selon vous, vous qui êtes le président du conseil départemental, et dont la voix est forcément écoutée? Parlons de la première. Est-ce que Catherine Assaut est plus légitime et sera toujours légitime demain que ce que l'a été Corinne Jeanfray?
Alors, je fais une petite rectification. Ma voix n'est pas toujours écoutée, elle n'est jamais écoutée. Elle n'est jamais écoutée.
Croyez?
Je n'ai jamais été consulté. Je n'ai jamais été consulté, ni pour le premier tour des primaires, ni pour le deuxième tour.
Alors, je vais le dire autrement. Votre voix publique, quand elle passe dans les journaux ou à la radio, est entendue.
Vous me faites beaucoup d'honneur.
Oui. Là, vous jouez des faux modestes. Et je reviens à ma question. Catherine Assaut restera-t-elle légitime? À vos yeux?
Ah ben moi je m'étais rangé, je veux dire à partir du
moment. Non, je vous demande votre avis. Je vous demande pas l'idée. Ce que je vous demande pas, c'est de savoir si vous êtes fidèle à votre parti, ça on l'a compris. Moi je demande l'avis d'un homme politique qui est président du conseil départemental. Qui sont les bons candidats à vos yeux?
Je dirais pas qui sont les bons candidats. Parce que non, mais je dirais qu'aujourd'hui, des candidats qui étaient investis, Catherine Assaut a été investie récemment depuis la victoire de Fillon au primaire. Bon. Moi, je me suis rangé derrière parce que
vous êtes fidèle et loyal.
C'est le candidat républicain la candidate républicaine que je soutiens. Ouais. Et puis, je me pose plus de questions pour aller derrière Catherine Assaut.
Mais au-delà de la fidélité, de la loyauté.
C'est quoi la légitimité dans une campagne pour les législatives?
Il n'y en a pas.
Il n'y a pas de légitimité?
Non, aujourd'hui, ce sont les partis politiques qui désignent des candidats au vu d'un résultat sur. Parce que j'imagine que vu de Paris, Catherine Assaut qui soutenait François Fillon, envers et contre tout. Elle a obtenu l'investiture parce que
elle est dans le courant. Parce qu'elle était dans le bon camp. Est-ce que ça vous fatigue pas justement? Elle devient lourde cette carte, les Républicains, à force de que les décisions viennent de Paris et soutenir le bon camp pour avoir la bonne.
Non, la carte des Républicains n'est pas lourde à porter, mais c'est la façon dont se passent les choses qui est quand on dit qu'on est dans une famille politique. Il y a quand même le mot famille.
Eh bien, c'est pas pour ça que je vous pose la question de savoir qui, à vos yeux, est le plus légitime dans le territoire. Vous êtes sur le territoire et vous savez donc qui a la meilleure approche pour suivre les dossiers, les défendre plus tard du côté de Paris.
Je vous le dirai après les présidentielles. D'accord. Simplement, je voulais dire sur la désignation des candidats. Je trouve que le sort qui a été fait à Corinne Jeanfray, le sort politique
qui
a été fait, mériter une autre façon, un autre traitement.
Oui, sur la forme.
On ne peut pas, quand on a désigné quelqu'un pour être représenté un parti politique, on ne peut pas, sans un mot, sans un coup de téléphone, sans un courrier, changer de candidat. C'est de la pure politesse, mais ça manque terriblement dans notre famille.
Donc finalement, vous rejoignez un peu tous les avis des élus politiques et des représentants politiques de Les Républicains qui se succèdent au micro d'Alpes, aussi bien dans les Hautes-Alpes que dans les Alpes-de-Provence. Le parti Les Républicains est complètement divisé de sa base de militants.
Parfois, je suis d'accord avec vous. Il n'est pas à l'écoute parce que demain, les élections locales, c'est pas une élection du président de la République. Les élections locales, on devrait prendre la tâche. On a un secrétaire départemental, on a un président d'une fédération départementale. Ces gens-là, ils sont sur le terrain. C'est des gens qui vivent avec nous. C'est eux qui devraient faire remonter des bonnes candidatures à un organe parisien qui gère l'ensemble de notre mouvement politique.
On a parlé de la première circonscription, on va parler rapidement de la deuxième avant de passer évidemment à un autre sujet, parce que dans la deuxième circonscription, vous avez pris parti dans la campagne d'Arnaud Murgien en le soutenant, et je repose ma question, dans ces cas, dans le cas où la circonscription serait dans l'avenir réservée à l'UDI, ce que semble savoir et croire Chantal Ameyoud, est-ce que vous dites raisonnablement à Arnaud Murgien, il va falloir se plier à cette règle du jeu et être loyal aux décisions des partis et donc soutenir Chantal Ameyoud?
Moi, je ne suis pas président des Républicains. S'il y a un candidat qui est désigné, aujourd'hui, le candidat investi, c'est Arnaud Murgien.
On est d'accord. Bon.
Est-ce que demain, il va être lui aussi rayé de la carte pour répondre à un accord national?
Ça serait une déception, au même titre que quand vous avez soutenu Bruno Le Maire, ça a été une déception de le voir perdre la primaire?
Non, je n'ai pas été déçu parce que je savais que Bruno Le Maire ne serait pas au deuxième tour.
Ouais.
Moi, j'avais des liens d'amitié, de fraternité avec Bruno Le Maire. Je l'ai soutenu simplement, mais je ne me faisais aucun doute sur l'issue de la primaire. Sur ces élections législatives, l'analyse de la situation voudrait qu'elle soit faite sur le territoire haut-alpin et non pas dans les salons parisiens.
C'est pour ça qu'on vous pose la question et qu'on attend des réponses précises et qu'on n'arrive pas à voir.
Mais les bons candidats, à mon avis, il faut attendre le positionnement des Français et des Alpins sur l'élection présidentielle.
Bon, on passe à un autre sujet, si vous le voulez bien. On sait que vous n'êtes pas un farouche défenseur de la loi NOTRe. Qu'attendez-vous du prochain gouvernement et quelle place devra tenir le département en termes de révision, de positionnement et de pratique sur les territoires?
La loi NOTRe voulait à la fois simplifier les relations entre les collectivités, supprimer des étages administratifs. Je pense que ce but-là n'a pas été du tout atteint. Il a simplement réaffirmé, pour le compte des départements, cette loi a simplement réaffirmé le rôle que doit jouer un département dans le domaine des solidarités, aussi bien humaines que territoriales. Bon. Ceci étant, d'un côté, on ne peut pas dire le département a un rôle important à jouer dans ces domaines-là, et de l'autre côté, lui couper les vivres. Je veux dire, on nous a aujourd'hui, 90% des départements sont pendus, il suffit qu'on enlève le tabouret qu'on a sous les pieds, et puis ça y est, on est mort.
Et pourtant, il y a de nouvelles donnes quand même dans la loi NOTRe, le soutien à l'investissement public, 1 milliard de crédits supplémentaires en faveur des communes et des intercommunalités, la dotation d'équipement des territoires en 2016 reconduite à hauteur de 816 millions d'euros, l'élargissement des dépenses éligibles au fonds de compensation au-delà de 6 milliards. Il y a quand même des compensations tout de même.
Non, ça ne fait pas vivre les départements.
Ça ne tient pas l'équilibre.
Non, ça ne sert pas d'équilibre pour le budget du département. Aujourd'hui, le budget du département, on est en plein dedans puisqu'on va le voter dans 8 jours.
Et on va en parler.
Et sur un budget de 260 millions d'euros, aujourd'hui, on a les dépenses sociales qui sont à plus de 40%, c'est-à-dire budget de fonctionnement, on est en train de dépenser 70 millions d'euros pour les solidarités humaines dans le département qui fait 140 000 habitants.
42% d'aide sociale, donc on est bien en dessous de la moyenne nationale qui est à 62% à peu près.
Ah non, mais ça dépend le montant, du volume qui vous reste à la sortie. Mmh. C'est 60%. Aujourd'hui, les dépenses de solidarité, le RSA, la PIAL, au personnel handicapé, a augmenté depuis 2011, a augmenté de 10 millions.
Mais vous attendez quoi finalement d'un gouvernement? Qu'il continue une sorte de perfusion des départements pour parvenir à payer ses dépenses sociales ou finalement plutôt parvenir à diminuer ses dépenses sociales?
Alors, il faudrait diminuer les dépenses sociales, les dépenses de RSA, mais c'est lié à l'activité économique, à la conjoncture nationale. Si demain on est moins de chômeurs, on aurait moins d'allocataires du RSA, ça serait de nature à soulager un peu les budgets départementaux. Mais aujourd'hui, enfin plutôt demain, ce que j'attends d'un gouvernement, c'est qu'il clarifie une fois pour toutes les relations financières qu'il a avec les départements. Et aujourd'hui, l'État, par rapport aux accords qu'on a passés avec le gouvernement dans les années 2000-2001, c'est pas une histoire de politique, le gouvernement de je ne sais plus qui en 2001. Bon, les accords sur la PA, c'est quand les départements, vous allez dépenser 1 euro, l'année d'après, nous, État, on va vous rembourser 1 euro. Aujourd'hui, le différentiel, il est à 17 millions. Chaque année, l'État oublie de me rembourser 17 millions d'euros. Voilà.
Et la compensation dont on parlait ne suffit pas. Vous restez avec nous, Jean-Marie Bernard. On marque une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la troisième partie d'Au bout de l'actu. À tout de suite.
Au bout de l'actu. Avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Et avec notre invité ce soir, Jean-Marie Bernard, le président du conseil départemental des Hautes-Alpes. J'aimerais revenir sur quelques déclarations qui ne datent pas il y a si longtemps que ça. C'était en décembre dernier. Vous parliez d'une enveloppe d'investissement qui passerait de 35 millions à 30 millions d'euros pour le département. Est-ce qu'on reste sur cet ordre d'idées?
On a un peu modifié notre projet de budget à la hausse en termes d'investissement. Simplement, on est en recours un peu plus à l'emprunt comme on souhaitait le faire. Donc aujourd'hui, on va, on va avoir dans notre budget de 260 millions, on va quand même réserver 35 millions sur l'investissement. Or, l'investissement propre pour dans le cadre de nos compétences, les routes, les collèges, et puis dans les programmes dans lesquels on est engagé, des cofinancements sur le CPER, le contrat de plan, et puis dans d'autres, et puis surtout, on veut maintenir un niveau d'aide aux communes.
Alors, c'était la question que j'allais vous poser, justement.
À hauteur de 15 millions.
Parce que c'est ça, le dilemme dans lequel vous vous situiez au mois de décembre, c'était de dire, on fait quoi? On reste dans nos compétences premières, vous le disiez, les routes, les collèges, les solidarités, et où, c'était plutôt dans votre question à ce moment-là, plutôt où les communes? Et donc, vous nous dites aujourd'hui, les communes ne seront pas laissées de côté.
Non, pas du tout. Mmh. Alors, j'ai eu l'occasion, en début d'année, de faire une réunion du conseil départemental, l'ensemble du conseil, mais une réunion privée, une réunion de travail, pour qu'on évoque un peu les perspectives de préparation de ce budget 2017, mais surtout de l'évolution en 2018 et plus tard. Bon, aujourd'hui, tout le monde est d'accord, de la droite jusqu'à la gauche, pour dire qu'on a fait des efforts de gestion, on a essayé de minimiser des dépenses, mais il y a des dépenses qui sont aujourd'hui, on est à la limite de ce qu'on peut faire. On pourrait encore supprimer, on restreint notre champ de...
Oui, vous avez un peu entendu aussi l'appel de la gauche. Gérard Fromm, qui est au sein de l'opposition, l'avait dit, c'est le moment aujourd'hui d'investir, d'avoir recours à l'emprunt parce que les taux sont bas.
Oui.
Et vous l'avez entendu?
On l'a entendu, on l'a écouté. Même dans ma majorité, d'autres conseillers départementaux étaient prêts à dire, oui, il faut emprunter pour investir. Parce que tant qu'on emprunte pour investir... Ça, c'est de la bonne,
c'est de la
bonne
l'emprunt, gestion. Ouais, l'emprunt qui est sain. Donc, vous nous dites aussi qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. De ce point de vue-là, l'argent viendra de l'emprunt.
Hein. L'argent viendra de l'emprunt pour équilibrer le budget 2017.
On poursuit avec un autre sujet, Jean-Marie Bernard. Vous êtes président du département des Hautes-Alpes, mais aussi président de la Comcom du BUH d'Évoluy. Un sujet qui concerne directement votre vallée, c'est le téléphérique de Bure. Aujourd'hui, une enquête est menée, une expertise également pour savoir pourquoi ce câble porteur a déraillé le 21 novembre dernier. Alors, l'expertise doit durer comme une grossesse, 9 mois. Certains parlent plutôt d'un arrêt du téléphérique de 2 ans, puisqu'on rappelle que l'autorisation d'exploitation est suspendue par la préfecture des Hautes-Alpes, et des millions d'euros de réparation. Cette question pour vous, est-ce que, en tant qu'habitant du Dévoluy, élu du Dévoluy, est-ce que vous avez déjà entendu des inquiétudes de la part de certains salariés de l'IRAM concernant la construction et la conception de ce nouveau téléphérique?
Alors, entendu des critiques de ce point de vue-là, jamais. Par contre, quand on connaît le contexte de la reconstruction du téléphérique de Bure, qui a pris 10 ans d'analyse, d'aller-retour pour dire on fait pas, on fait autre chose... Ce téléphérique, il a été conçu, enfin il a coûté un prix record en plus, il a été conçu comme un téléphérique moderne, et par définition, un téléphérique, ça n'a jamais d'incident. C'est le transport le plus sûr au monde, donc c'est incompréhensible. Moi, ce que je regrette, c'est que le premier jour de l'accident, quand le maire du Dévoluy, Jacqueline Puget, qui n'était même pas au courant, elle était au courant parce qu'il y a des journalistes qui sont venus lui demander si elle était au courant. Bon, elle a téléphoné au responsable de l'installation sur le plateau de Bure, qui lui a dit non, mais je ne vous ai pas appelé parce que c'est pas un incident, c'est rien du tout, on va réparer ça vite fait. Et Jacqueline Puget, elle leur a dit, mais il y avait quand même des gens dans la cabine. Non, il n'y avait personne. Bon, il n'y avait personne. Si, il y avait des gens, puisque la cabine est à...
Il y avait deux personnels de la CETI, en effet, qui sont extraits de la cabine, en effet, par une corde.
Bon, non, mais de là à dire au maire qui est responsable de la sécurité sur sa commune, dire qu'il n'y avait personne dans. Et donc c'était une volonté de minimiser un peu...
C'est quoi, c'est une volonté de minimiser ou une omerta?
Peut-être que le mot omerta est un peu fort, mais aujourd'hui... Moi, je me suis exprimé sur cette question auprès du préfet pour lui dire, nous, on veut savoir ce qui se passe. Parce que, c'est pas le premier incident,
oui.
Je dirais. Après les 20 morts qu'il y a eu en 1999...
Voilà, il y a un passif qui est lourd que vous avez vécu, vous, à l'époque.
Il y a un gros passif là-dessus. Donc aujourd'hui, on remet des gens dans une situation où on leur a expliqué que c'était... La bonne solution pour aller travailler sous le plateau de Bure. Il y a des gros enjeux en plus scientifiques et techniques là derrière.
Il y a le projet Noéma, on le rappelle.
Il y a le projet Noéma, donc il ne sera pas remis en cause, le projet Noéma. Mais je trouve que c'est inadmissible aujourd'hui, au 21e siècle, qu'on n'ait pu reconstruire un téléphérique et puis que ce téléphérique ait pu avoir un incident. Parce que, en fait, ce n'est pas un incident, c'est un accident. Hein. Parce que pour faire dérailler un câble porteur sur 4 km de long, ça doit peser 40 ou 50 tonnes.
En effet, bon, le rattrape-câble n'a pas rattrapé le câble porteur, voilà. Et selon certaines sources, ce câble aurait même déjà déraillé en novembre 2014, on emploie toujours l'hypothèse. Vous le dites, c'est pas une omerta, mais seulement est-ce que vous étiez au courant que certains employés de l'IRAM avaient usé de leur droit de retrait pour ne pas prendre ce téléphérique dans certaines conditions ? Ils évoquaient notamment le fait que les pics de vitesse au niveau du vent étaient de plus de 90 km/h et donc que ça n'était pas pris en toute sécurité. Un tiers du personnel de l'IRAM qui aurait utilisé leur droit de retrait en janvier 2016.
En janvier 2016 ? Ah non, j'étais pas au courant.
Donc, omerta ou pas omerta ?
Ah ben là, si c'est ça, c'est de l'omerta.
Alors, qu'est-ce que vous, en tant qu'élu du dévolu et président du département, vous êtes prêt à faire comme action auprès du conseil d'administration de l'IRAM pour que ça ne se reproduise pas ? Vous l'avez dit, vous êtes allé auprès du préfet, vous avez fait remonter certaines demandes auprès du préfet et auprès du conseil d'administration de l'IRAM.
C'est un peu difficile. Moi, avant de la reconstruction de ce téléphérique, quand ils avaient lancé une première consultation, mais il y a peut-être 5 ou 6 ans, j'étais associé, moi, maire de Saint-Étienne en dévolu, j'étais associé à leur comité de pilotage pour choisir les entreprises pour faire les études. J'étais associé. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'à un moment, quand ils avaient choisi un maître d'œuvre pour faire cette installation, moi, je m'étais renseigné un peu, c'est des gens que personne ne connaissait. Ils avaient simplement l'avantage d'être peut-être moins chers que d'autres. Et c'était vraiment pas des spécialistes. Donc moi, j'avais dit au directeur de l'IRAM, qui maintenant est directeur de Alma, là-bas, en Amérique du Sud, j'avais dit que moi, je ne cautionnais pas cette façon de faire les choses. Et puis j'avais été, je m'étais pas retiré, mais j'avais été écarté.
Oui, vous avez gentiment remercié.
Voilà. Donc, j'ai jamais plus entendu parler de ces affaires-là. Moi, je pense que à l'IRAM, ce sont des scientifiques et qui, en termes de remontée mécanique, ont toujours voulu s'occuper de ces affaires-là. Quand on a relancé les études sur la reconstruction du premier téléphérique, c'est pas leur métier, ils savent pas faire, ils dépensent beaucoup d'argent pour des résultats qui sont ce que l'on connaît aujourd'hui.
Qui n'a pas joué son rôle de vigilance, pardon, parce que au niveau de ce comité de pilotage, certaines sources évoquent aussi certains experts qui auraient plus ou moins avancé le fait que cette construction n'était pas assez sécuritaire et qui ont été aussi écartés du projet. Qui n'a pas joué son rôle de vigilance ?
Ah, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas d'éléments de réponse.
Est-ce que vous voulez le savoir aujourd'hui ?
Ah ben oui. Ben, j'espère que l'enquête va nous dire un peu ce qui s'est passé et on sera vigilant. Enfin, le maire du dévolu sera vigilant auprès du... Et moi, je solliciterai toujours le préfet pour voir la vérité sur cette affaire-là.
Quelques sujets rapides, parce qu'il faut qu'on avance, Jean-Marie Bernard. Rapide, mais pas mineur. Quelques 6000 signatures contre le projet de rénovation du réseau électrique mené par RTE Hauts-de-Durance nous ont été remises par l'association Avenir Hauts-de-Durance. Alors, outre l'aspect économique souvent mis en avant pour défendre le projet, on observe que l'argument de l'avenir énergétique du territoire n'est pas forcément cohérent. Que sont devenues ces 6000 signatures ?
Eh ben, elles m'ont été remises et je les ai transférées au préfet pour qu'il en fasse bon usage.
D'accord. Et vous en dites quoi de ces signatures ?
Alors, ben moi aujourd'hui, le projet RTE, je trouve que c'est un projet incontournable pour le développement des Hautes-Alpes. Mmh. C'est un projet qui a été travaillé par des techniciens, des ingénieurs pendant très longtemps. Il a été validé, il a été soumis à l'opinion publique au travers des enquêtes publiques qui ont eu lieu. Le résultat, c'est, quand on regarde, on simplifie un peu le projet de RTE, c'est on sécurise l'alimentation électrique du département, voire plus pour 50 ans ou 100 ans. On enlève des lignes électriques aériennes qui ont été construites en 1930, y compris dans le col du Lautaret et le col du Galibier. Donc le résultat final, c'est on met des lignes de plus haute tension peut-être, on enterre beaucoup de lignes et finalement on supprime 100 ou 150 km de lignes aériennes. Moi, je trouve que même si par rapport à ceux qui disent on aurait pu faire mieux, moi, je trouve que c'est déjà pas mal.
Et est-ce qu'on surdimensionne pas dans des territoires qui sont aujourd'hui des territoires à énergie positive ou à énergie positive en devenir, comme le Briançonnais, l'Embrunais ou le Gapensé, qui ont pour but de devenir autonomes en énergie dans les années à venir, sachant que le gouvernement a aidé financièrement le territoire et pourrait l'aider encore à hauteur de 2 millions d'euros en fonction des qualités des projets. Est-ce qu'on n'est pas à contresens de l'histoire, finalement?
Non, vous évoquez des sources nouvelles d'énergie, mais qui sont epsilon par rapport à la consommation en pointe, notamment en plein hiver. Donc, tout ce qui est faisable en termes d'énergie renouvelable, il faut le faire. Et aujourd'hui, pour les 50 ans qui viennent, ce n'est pas avec cette énergie renouvelable ou ces économies d'énergie on aurait pu sécuriser l'avenir du territoire.
Mmh. Autre sujet qui concerne le sport, Jean-Marie Bernard, les Rapaces de Gap qui sont obligés d'en appeler à la générosité des internautes supporters. On résume la situation ainsi et qui tire la sonnette d'alarme à travers, et on l'a entendu aujourd'hui dans l'actualité des Alpes du Sud, son coprésident, son président, qui finalement se tourne un peu vers les élus en disant vous avez été un peu chiche avec nous et il serait peut-être temps d'être un petit peu plus généreux si vous voulez que la Ligue Magnus soit toujours occupé par les Rapaces de Gap notamment.
Qu'est-ce et puis, que puis même simplement boucler l'exercice en équilibre.
Exactement. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, vous
Je vais participer à la souscription qui est en cours, personnellement.
Oui.
À hauteur de combien, puisqu'on y est
Je vais mettre au moins 100 ou 200 euros.
Bon, ce qui ne sera peut-être pas suffisant pour clôturer l'année. Au-delà de ça, le département, est-ce qu'il est capable de mettre plus?
Alors aujourd'hui, globalement, le département dans le domaine du sport, on consacre encore 1 200 000 euros, je crois, sur l'aide au sport en général,
oui.
Et ça passe par toutes les gammes de sport. Sur le hockey, le département est quand même un gros contributeur, puisque nous mettons 110 000 euros sur le hockey à Gap, donc pour les Rapaces et puis pour le hockey féminin.
La question est simple, hein, Jean-Marie Bernard, est-ce que vous pouvez faire plus aujourd'hui?
Aujourd'hui, on ne peut pas faire plus. Mmh. Aujourd'hui, moi, je constate quand même que les Rapaces sont les Rapaces de Gap.
Oui.
Bon,
et ils le seront encore combien de temps? C'est la question qui est posée aussi à travers ça.
Mais je pense que tout le monde doit se poser la question. Là.
Oui. Donc vous renvoyez la balle à tout le monde, c'est qui tout le monde? Qui sont ces collectivités qui ne vont pas assez loin?
Aujourd'hui, il y a la ville de Gap fait un effort, j'imagine, important. Je ne sais pas combien la ville de Gap met dans le budget des Rapaces. Mais il y a aussi maintenant une communauté d'agglomération qui a des moyens financiers, qui a des ressources, qui devrait peut-être, moi je ne vais pas donner des idées à son président, mais il y a peut-être des...
Mais vous
posez
une question.
Il y a peut-être des pistes à fouiller de ce côté-là.
Mm-hmm.
Mais aujourd'hui, d'une façon générale, sur tous les territoires, toutes les collectivités ont des problèmes d'argent. Sur un territoire, après, on fait le choix de ce qui est important, de ce qu'on veut conserver, de ce qu'on ne veut pas conserver.
Est-ce que les Rapaces sont un symbole important à conserver, selon vous?
Pour Gap, c'est un symbole important, mais bien sûr, c'est... Dire Gap, le hockey sur glace, ça existe depuis 50 ans, au moins. Bon, je pense que c'est important pour Gap.
Êtes-vous prêt à rouvrir les négociations si demain les clubs des Diables Rouges de Briançon et des Rapaces de Gap se disent prêts à se mettre autour d'une table pour fusionner? Et dans ce cas-là, est-ce que vous êtes prêt à revoir votre aide?
J'ai déjà évoqué cette question-là avec les responsables des spécialistes, enfin ceux qui connaissent.
Vous y êtes favorable?
Moi, j'y serais favorable, mais on me dit que techniquement, c'est pas une bonne idée. Voilà. Faire un seul club qui aurait de l'allure en termes au alpin. C'est un peu difficile pour des gens qui sont en Briançon ou à Gap de se déplacer.
Mais en tout cas, en tant que président du département, vous dites ouvert la discussion à ce moment-là pour un budget qui soit différent.
C'est vrai, ça serait une belle idée d'avoir qu'une seule équipe dans le département.
On n'a malheureusement pas eu le temps d'aborder ce nouveau territoire qui est la communauté de communes du BH d'Évoluy. On vous invitera donc, Jean-Marie Bernard, si vous voulez bien revenir nous voir. Et on vous remercie d'avoir été notre invité ce soir en direct sur Alpe 1. À très bientôt.
Merci à vous.
Dans un instant, la suite, ce sera le récap de l'info dans moins de 10 minutes maintenant, dès 19h, juste après la pause et la musique. À tout de suite.